Bonjour les jeunes passionnés de sciences. Je suis Clara, en classe de seconde au lycée Raoul Follereau.
Et moi, je suis Mathilde, également en classe de seconde. Nous vous accueillons aujourd'hui sur la radio lycéenne Bac FM pour une émission spéciale Fête de la science. Puisque c'est la 31e édition de cette manifestation qui a eu lieu dans toute la France avec pour objectif de mettre la science à portée de tous, petits et grands.
Effectivement, et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Lolwenn Chauchet de Gesnay, docteur en océanographie et glaciologie.
Monsieur de Gesnay, bonjour.
Bonjour.
Selon vous, quel est l'intérêt majeur d'une manifestation comme la Fête de la Science?
Alors je pense que pour moi le premier intérêt c'est de vous sensibiliser, vous les jeunes, aux questions de la science, et pour nous les moins jeunes de vous partager notre passion. Donc c'est un moment d'échange pour que vous puissiez un petit peu voir ce que nous on fait en recherche et éventuellement vous donner envie d'en faire.
Participez-vous à d'autres événements permettant de promouvoir les sciences?
Alors dans 15 jours, on va refaire à peu près le même atelier qu'on a fait tout à l'heure ensemble dans un autre collège de Côte d'Or, à Liernay dans le Morvan.
Pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste votre métier?
Alors mon métier, il est un peu particulier. J'organise et je réalise des missions scientifiques de A à Z. Donc, c'est-à-dire que je commence en étant chez moi où je vais, grâce à mon ordinateur et des réunions, préparer la mission, donc aussi bien sur le côté technique, logistique, avec les scientifiques et leurs besoins. Donc, essayer de comprendre ce dont ils ont besoin, trouver les instruments dont ils ont besoin et tout ça. Après, je vais sur place avec eux. On collecte les données ensemble et puis quand je reviens chez moi, je les aide à faire ce qu'on appelle le dépouillement des données. C'est-à-dire qu'on a récupéré des données sur le terrain, mais c'est un petit peu mélangé, mal organisé. Parfois, il faut un peu filtrer les mauvaises données qu'on peut retrouver à cause de différents problèmes qu'on a pu avoir. Donc, je fais ce travail de filtre et je leur redonne pour qu'ensuite, eux, ils fassent la partie recherche à proprement parler. Moi, je fais la collecte des données, je les aide pour cette partie-là.
Vous êtes aujourd'hui au lycée Raoul Follereau pour une conférence intitulée « La recherche en milieu polaire ». Pourriez-vous nous expliquer ce que représente la recherche en milieu polaire?
Alors, ça fait partie d'un grand ensemble de recherches sur les questions du climat. Et le climat, ça concerne toute notre planète. Aussi bien les milieux polaires que les milieux tempérés, les milieux tropicaux et tout ça. Sauf que sur les régions polaires, il y a une problématique assez importante avec la glace et la fonte de la glace. Et si la température, c'est la température de l'atmosphère se réchauffe et donc la glace fond. Et donc il y a un impact d'autant plus important dans ces régions où on peut passer d'une température qui était avant en dessous de 0 degré à au-dessus de 0 degré. Donc en gros, à une période où la glace elle fondait pas, à maintenant une période où la glace elle fond. Donc il y a un enjeu qui est assez important. Pas tant pour les régions polaires directement, mais pour le reste de la planète aussi. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les régions polaires va nous impacter tous à l'échelle de la planète, qu'on vive en Afrique subsaharienne, en France ou au Groenland, ou voilà, un peu partout, quoi.
Et du coup, vous considérez votre métier comme si c'était votre passion?
Alors moi, j'ai fait le choix de suivre un métier passion, c'est-à-dire que j'ai pas un plan de ma carrière où j'ai un peu suivi au fil de l'eau comme ça, mais des opportunités. Et donc, spontanément, j'ai envie de dire, aujourd'hui, mon métier, c'est une passion. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai pu planifier. J'ai surtout commencé par suivre ma curiosité quand je faisais mes études. J'ai fait des choix qui me plaisaient par rapport à des trucs qui me semblaient intéressants. Et pas tant me dire, en faisant cette étude, je vais pouvoir faire ça. Puis si. Au final, ça m'a permis de créer ces opportunités et donc de pouvoir faire un métier qui me plaît beaucoup.
Que pensez-vous des disparitions des animaux polaires?
Alors, moi, je ne suis pas biologiste, donc je ne vais pas pouvoir beaucoup vous répondre là-dessus. Les animaux des milieux polaires, comme ailleurs, en fait, sont impactés par le changement climatique et l'action de l'homme. Parfois, on met un petit peu trop en avant peut-être certains animaux, comme l'ours polaire, qui est devenu un peu un icône du réchauffement climatique en milieu polaire. Je ne dis pas qu'il se comporte bien partout et qu'il est en bonne santé partout, mais faut pas oublier que dans certains endroits, pour le moment, et ça sera peut-être pas le cas dans 10-20 ans, l'ours polaire peut aller en bonne santé. Donc ce qui est important, c'est déjà un, de voir ce qu'en pensent les biologistes, qui n'est pas mon métier, et puis de penser que toutes nos actions ont un impact sur le reste du monde du vivant, que ça soit ici ou là-bas en fait.
Pensez-vous que les fontes de glace sont un danger au cours des années à venir? Avez-vous une théorie sur ce qui pourrait se produire et les risques que ça pourrait engendrer?
Alors, ça dépend ce qu'on entend par un danger. Il ne va pas y avoir un méga tsunami qui va noyer la moitié de la population de New York, comme on peut le voir dans certains films. c'est plutôt quelque chose de très long terme. Là, on parle de, globalement, la fonte des glaciers va impacter le niveau de la mer. Le niveau de la mer va monter partout sur la planète, que ce soit ici à Shanghai ou ailleurs. Et ça, ça va nous impacter, pas directement par des inondations, bien que ça peut être le cas dans certains pays, mais aussi par des tempêtes qui vont plus facilement franchir les digues. Et donc ça, ça va avoir le danger, je pense qu'il est là. Le niveau de la mer va, en montant, va réduire notre, nos infrastructures de protection contre les tempêtes, les grosses vagues. Et c'est plus ça que je verrais comme danger.
Avez-vous déjà eu l'occasion d'aller en milieu polaire? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez retiré?
Alors oui, j'ai eu l'occasion d'y aller depuis 2007 maintenant, donc ça fait bientôt un peu plus de 15 ans. Bah, déjà, ce que j'en ai pu retirer, c'est une certaine forme d'amour pour ces régions-là. C'est quand même, moi, je trouve des régions que j'apprécie beaucoup, des paysages vastes et assez calmes, assez, avec une certaine beauté. Je pense que ça m'a aussi sensibilisé, pas que au changement climatique, mais à l'importance d'utiliser le fait que les gens soient attirés par ces régions-là pour les sensibiliser eux-mêmes. C'est-à-dire que voir des glaciers qui fondent ou des gros icebergs qui se cassent peuvent être un moyen de dire bah, « Attendez, c'est aussi la conséquence de ci ou de ça, de nos actions du quotidien. » Donc c'est un moyen qui est assez pratique, ça fait rêver. Ça permet d'aborder les gens avec un... Ils sont plutôt enthousiastes quand on leur parle. Et donc on en profite au passage pour leur faire passer un petit message.
Comment la recherche en milieu polaire permet-elle d'exercer son esprit critique afin de savoir si une information est vraie ou fausse? Et quelles sont les étapes à suivre pour mettre en place une telle démarche?
Alors là, j'ai envie de dire que la question se généralise plus à tout type de recherche ou à plein d'informations. Il n'y a pas que la région polaire. L'esprit critique, en tant que chercheur, il se pose déjà sur la façon dont on aborde les questions. Donc déjà, il faut se dire qu'on peut avoir tort, se remettre en cause à n'importe quel moment si les observations qu'on a sont contraires à ce à quoi on s'attendait. C'est une construction en théorie qu'on a en tant que scientifique. Je trouve que moi, dans mon parcours, ça m'a pas été transmis directement. J'ai l'impression que vous, jeune génération, c'est quelque chose qui est plus abordé. Ce qu'on appelle l'esprit critique ou le principe scientifique, je l'ai un peu découvert au fur et à mesure. Et on doit avoir des preuves, on doit les mettre à l'épreuve des autres arguments, et on doit être capable, je pense que ce qui est important, c'est d'être capable de renoncer à une idée qu'on pensait bonne. Admettre qu'on a pu avoir tort. Ça, c'est le premier truc de base, je pense, pour avoir de l'esprit critique.
À l'époque actuelle, les jeunes s'informent le plus souvent à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller vis-à-vis de beaucoup d'informations fausses, mais vraisemblables, qui peuvent y être véhiculées?
Alors, il y a deux choses que je peux voir par rapport à ça. Bon, déjà, souvent on dit multiplier ses sources pour essayer d'avoir plusieurs personnes qui vous confirment ce que vous voyez. Avant de croire que c'est vrai, essayer de retrouver une autre source. Ce qui est compliqué avec les réseaux sociaux ou Internet en général, c'est que parfois on a l'impression qu'il y a plusieurs sources, mais en fait tout le monde cite la même personne ou le même article de base. Donc ça peut être un peu compliqué, mais on peut essayer d'aller voir des journaux dans lesquels on a confiance, ou demander à des adultes ou à d'autres personnes. Et vraiment changer de... avoir plusieurs sources pour essayer de complémenter. Ensuite, je pense que l'esprit critique, il est aussi dans une certaine gymnastique de l'esprit. Et même si c'est pas toujours le cas, déjà se poser la question, est-ce que c'est vraisemblable? Est-ce que c'est la solution la plus simple pour expliquer ce problème ou cet événement? C'est un bon point de départ. C'est pas toujours la solution la plus simple qui est la vraie, mais c'est un bon point de départ. En général, les solutions farfelues sont compliquées. Les fausses sont... elles sont pleines de ramifications bizarres et on sait pas trop qu'est-ce qui fait tenir le château de cartes. Donc... essayer d'aller vers la simplification, on peut aussi dire, un peu comme l'esprit, la méthode scientifique, essayer de confronter l'argument, de se dire, j'avais tort, qu'est-ce qui pourrait expliquer que j'ai tort? Donc essayer d'en parler avec quelqu'un d'autre, de dire, essaye de me dire, qu'est-ce que tu penses qui pourrait être faux dans ce que je crois, et puis on peut en discuter. Le travail des scientifiques, c'est la discussion. Et l'esprit critique, c'est aussi la discussion, que ça soit tout seul dans sa tête, ou avec ses camarades. Accepter de discuter, de remettre en cause ce qu'on croit vrai. C'est un point de départ important.
Et du coup, vous nous avez dit que vous aviez déjà eu l'occasion d'aller en milieu polaire. C'était pas difficile la communication avec vos proches, par exemple?
Alors, ça dépend un petit peu. Au tout début, il y a 15 ans, c'était assez succinct. On pouvait pas vraiment appeler ou envoyer d'email quand on était en mer ou dans les régions très reculées, parce que j'étais souvent sur un bateau. Maintenant, avec des téléphones satellites qui sont devenus à des prix relativement abordables, on peut facilement envoyer des petits messages. On fait pas des visioconférences ou on se regarde pas un film. Y en a qui le font dans certains endroits, mais pas moi sur les expéditions que je fais. Mais il y a suffisamment de moyens pour communiquer. Après, ce qui est limite parfois le plus embêtant, c'est la disponibilité. Quand je suis sur place, c'est des missions courtes, très intenses. On peut travailler en 24 heures sur 24, en faisant des sortes de 3-8. Et donc, on est vite assez épuisé. Et en fait, on prend 5 minutes pour envoyer un petit texto. Et puis, c'est tout, quoi. Après, on est au fond du lit. On dort jusqu'à notre prochain tour de veille. Donc, voilà, c'est plus... il faut que la personne de l'autre côté, nos proches, mon épouse ou autre, elle ait conscience de ça et qu'elle accepte qu'on ne va pas être à la même disponibilité que quand on est à la maison. Donc après, ce n'est pas tous les jours, tout le temps, comme ça.
Avant de terminer cette interview, quels sont les conseils que vous pourriez donner à de jeunes lycéens ou lycéennes qui sont attirés par les sciences sans forcément avoir une idée précise d'un métier dans ce domaine ?
Alors, moi, je pense que ce que j'ai envie de leur conseiller, c'est de suivre leur curiosité ou leur passion, et puis de cheminer. Il y a peut-être des gens qui ont déjà une vision de leur métier. Moi, j'en avais aucune quand j'avais votre âge. Et en fait, j'ai changé 3-4 fois d'idée. Et puis, j'ai suivi des trucs qui me passionnaient, des opportunités qui en ont découlé, qui ont fait qu'il y a eu d'autres trucs qui m'ont intéressé. Et voilà, ça m'a permis de suivre. Alors, j'étais curieux, donc c'est ce que j'ai suivi. Donc je vous souhaite d'être curieux, c'est surtout ça.
Nous vous remercions, Monsieur Chauchet de Gisney, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à cette fête de la science au sein du lycée Raoul Follon.
Au revoir, merci.
Juste avant de retrouver Emmanuel Venin pour le second entretien, on écoute Bad Omens.
I died when you left that night for the thousandth time. Bac FM 106.1.
Nous sommes de retour sur Bac FM sur l'émission spéciale Fête de la Science.
Effectivement, et nous sommes en compagnie d'Emmanuel Vénin, professeur à l'Université de Bourgogne dans le domaine des sciences de la vie, de la Terre et de l'environnement. Emmanuel Vénin, bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous.
Selon vous, quel est l'intérêt majeur d'une manifestation comme la Fête de la Science ?
Alors, il y en a beaucoup, mais je dirais que ça permet d'avoir un contact, c'est-à-dire que ça permet aux professionnels d'être en contact avec le public, avec des jeunes, avec des enfants, et ça permet d'expliquer en fait quel est notre métier, ce que l'on fait au quotidien, et c'est quoi les sciences, à quoi ça va servir, est-ce que c'est utile pour comprendre notre environnement, l'histoire de notre planète. Donc c'est un moment qui est très important, ces fêtes des sciences, où on peut partager en fait.
Participez-vous à d'autres événements permettant de promouvoir les sciences ?
Oui, alors concrètement, nous à Dijon, sur la fac, c'est vrai que pendant ces fêtes de la science, il y a pas mal d'activités qui sont organisées. Même pendant la période où il y a eu le Covid, il y a eu quand même des émissions radio justement, ou d'autres émissions. Et puis sinon, en fait, ce qu'on fait beaucoup, c'est on va dans des écoles. Alors là, justement, au mois de novembre prochain, je vais faire une intervention pour des enfants de l'école primaire, où je vais leur expliquer comment fonctionne un volcan. L'année passée, je leur avais fait les processus, tout ce qui était fossile. Ils avaient beaucoup aimé. Alors du coup, cette année, ils ont dit à leurs enseignants, la dame, là, est-ce qu'elle peut revenir pour faire des présentations géologiques. Et puis après, ça peut être dans des associations. Il y a un mois, je suis allée dans le Morvan, justement, où il y a une association qui était très intéressée par le devenir de nos rivières. Et on intervient dans ce cadre-là. Et là, il y avait des publics, il y avait des professionnels, des rivières, etc. Donc on a quand même pas mal d'activités qui essayent justement de mieux expliquer notre métier par rapport à tout type de public, on va dire.
Et du coup, pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste votre métier ?
Alors, sans employer un terme trop jargonneux, mon intitulé, mon métier, c'est sédimentologue. Alors, c'est quoi une sédimentologue ? En fait, c'est une discipline de la géologie. Ça veut dire que j'étudie notre planète. Et je l'étudie d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire que je regarde les dépôts qui se sont formés en surface, et surtout les dépôts en fait où il y a un lien entre le monde vivant et le monde minéral. Donc mon métier à moi, c'est d'essayer de comprendre comment les organismes ont participé ou participent à la formation des roches. Et ça, soit dans des dépôts très 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 anciens de l'histoire de notre planète, soit dans des dépôts plus récents. Et ça a des implications. Ça a des implications, par exemple, sur ce que j'expliquais lors de la conférence, qu'on a, par exemple, dans les organismes que j'étudie, ils piègent des carbonates, et c'est dans ces carbonates, il y a du CO2, un gaz à effet de serre. Donc vous voyez que derrière ça, il y a une implication écologique directe, puisqu'on essaye de se préoccuper justement de trouver des solutions, pour aider notre planète à rester aussi jolie qu'elle l'est actuellement.
Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots ce que l'on appelle réchauffement climatique et les conséquences que ce réchauffement climatique pourrait en engendrer ?
Alors, effectivement, je pourrais parler pendant des heures, parce que je pense que ça fait partie de notre discipline, notamment quand on est sédimentologue. Puis je vais peut-être pas parler pendant des heures justement et donner des exemples concrets. Un réchauffement climatique, en fait, c'est une élévation de la température moyenne à la surface de notre planète. Par exemple, il y a un organisme qu'on appelle le GIEC aujourd'hui. C'est un organisme qui se préoccupe de ça. Ils font des mesures. Ce sont les grands scientifiques de notre planète qui travaillent ensemble pour essayer de comprendre justement les modalités et les transformations, tout ce qui est lié en fait à ce fameux réchauffement climatique. Donc, ce que l'on prévoit quand on écoute le GIEC, c'est que on a dans les années qui viennent, on attend 2 degrés, voire 3 degrés en moyenne à la surface de la Terre de réchauffement. Et c'est quelque chose qu'on ressent dans notre quotidien. Pourquoi ? Parce que on parle beaucoup d'ouragans. Là, il y a un ouragan qui vient de traverser la Floride, qui a traversé Cuba, qui a tout détruit sur son passage. Il y en a de plus en plus. Donc, en fait, ce réchauffement climatique, il est surtout, plus que de réchauffement climatique, on a une perturbation ou une instabilité climatique qui est liée à ce réchauffement. Et ce réchauffement, il est produit parce que on concentre dans la haute atmosphère des gaz que l'on appelle des gaz à effet de serre. Et qu'en fait, ces gaz, quand ils sont présents, ils empêchent notre planète de se refroidir. C'est ça qui gêne, en fait, et qui fait que, de façon moyenne, la température augmente. Donc les conséquences, moi j'étais justement sur le terrain avec mes étudiants en Méditerranée cette semaine, et effectivement on le vit au quotidien, c'est-à-dire qu'on voit très bien que toutes les aménagements, toutes les constructions qui sont en bord de mer, en fait vont être gênées par ce fameux réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une fonte des glaciers au niveau des pôles. Vous en avez peut-être entendu parler au cours de votre dernière conférence, je pense. Et ça va entraîner une élévation du niveau marin moyen. Et donc ça a des conséquences directes sur les populations qui vivent, par exemple, en bord de mer. Et là, il y a une dame qui était préoccupée justement de façon anecdotique et qui est venue nous voir en disant « Mais est-ce que vous pensez, je dois vendre ma maison, etc. » Donc vous voyez qu'on en est là et que les conséquences, on va les vivre au quotidien. Donc il faut trouver des solutions pour essayer d'enrayer en fait ce changement du climat.
Et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire comment l'homme a-t-il un impact sur ce réchauffement climatique ?
Alors, de beaucoup de façons différentes. Alors moi, je suis géologue. Alors justement, nous, notre rôle, c'est de remettre en perspective. C'est de remettre en perspective sur l'histoire de notre planète. Je dirais que quand on s'en fait un cours trop théorique, l'impact de l'homme, en fait, il est sur la vitesse à laquelle les phénomènes vont changer. Parce que notre planète, en fait, elle a connu des périodes chaudes, elle a connu des périodes froides, qui étaient régies par le mouvement des planètes, de la Terre autour du Soleil, etc. Ce qu'a fait l'homme, ou ce que fait l'homme, c'est qu'il accélère ces processus. Pourquoi ? Par exemple, en brûlant des hydrocarbures, en utilisant de façon peut-être un peu trop exagérée les ressources qui sont à la surface de notre planète. Et c'est ce en quoi l'homme impacte, en fait, son environnement. C'est plus sur des vitesses de processus. Parce que, en fait, c'est ce qui avait été décrié ces dernières années. J'avais des collègues qui étaient intervenus en disant « Oui, mais la Terre, de toute manière, on est en train d'entrer dans une période froide, dans une période glaciaire. » Le problème, ça, c'est dans très, très, très longtemps. Et les changements climatiques qu'on voit opérer aujourd'hui, et qui sont, on ne peut pas le nier, le résultat de l'activité humaine, ils sont sur du court terme. Donc il faut qu'on arrive à comprendre et un petit peu, à essayer de travailler sur ces changements-là.
Madame Vénin, vous êtes aujourd'hui au lycée Raoul Follereau pour une conférence intitulée « Des pièges à carbone pour sauver le climat ». Comment vous essayez de piéger ce carbone ?
Alors, je vais essayer de faire très simple. Je ne vais pas refaire la conférence. Donc, moi, je travaille, je suis sédimentologue, comme je le disais. Je travaille sur des roches qui sont des carbonates. Dans ces carbonates, on va faire un peu de chimie. On a des éléments qui sont piégés. Le calcium, le carbone et l'oxygène. La combinaison du carbone et de l'oxygène, ça donne ce CO2. Et vous voyez que tout de suite, je vais faire un lien avec la capacité de ces carbonates à piéger de façon pérenne, ça veut dire dans le temps. C'est-à-dire que vous allez prendre du CO2 de l'atmosphère grâce aux organismes qui vont pratiquer la photosynthèse. Et ces organismes, par ailleurs, vont être capables de minéraliser et de stocker du carbonate. C'est la seule façon, c'est l'une des façons, de stocker du CO2 de façon très efficace et durable, dans le temps. Il y a d'autres façons de stocker ou de piéger du carbone et notamment du CO2, mais ça, c'est un moyen qui est très efficace. Et c'est vrai que dans les années qui viennent, on va en entendre beaucoup parler. Ce ne sera pas la seule solution, parce que maintenant, on a compris, et ça, c'est plutôt bien, qu'en fait, c'était la somme de plein de méthodes différentes qui vont nous permettre d'essayer de piéger ce carbone.
Et du coup, est-ce que vous considérez vivre de votre passion ou c'est un métier un peu comme les autres
Ah non, c'est pas un métier comme les autres forcément. Non, c'est un métier passion. C'est un métier comme je me lève le matin, je me dis chouette. J'ai la chance pour moi. Mais c'est pour moi, je fais le plus beau métier du monde. Mais ça me concerne, c'est-à-dire que je ne vais pas imposer à mes étudiants ou à des jeunes et leur dire, faites tous de la géologie, parce que non. En fait, il faut trouver ce qu'on aime, il faut trouver des centres d'intérêt dans la vie. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, parce que je fais ma passion. Il y a des gens, ils travaillent au quotidien, ils gagnent leur vie, et ils ont une passion. en tout cas je l'espère, à côté. Et donc, ils attendent avec beaucoup d'impatience le moment où enfin ils seront débarrassés de leur activité professionnelle pour pouvoir exercer leur passion. Alors, ça peut être n'importe quoi, hein, du jardinage, du vélo, de l'escalade en montagne, etc. Eh ben, en fait, moi, mon métier, c'est ma passion. Donc voilà, je me lève le matin, je vais pas réfléchir à me dire ce que je vais faire ou pas faire, c'est je fais ce que j'aime. Et ça, c'est une chance, je pense, énorme.
Oui. Quels sont les autres moyens que nous pourrions avoir à notre échelle dans la vie de tous les jours pour réduire notre impact sur ce réchauffement climatique ?
Alors, il est au quotidien. Alors, moi, avant tout, hein, je voudrais dire qu'il faut arrêter de culpabiliser les gens. Ils font ce qu'ils peuvent. Donc, on essaye tous à notre échelle de faire un petit peu. Mais effectivement, il y a des façons, vous, à votre échelle. Hein, c'est déjà d'être plus respectueux de l'environnement, de jeter moins les détritus, d'éteindre la lumière quand vous sortez d'une pièce. Enfin, les trucs qu'on vous répète, hein, qu'on vous rabâche, de façon assez récurrente. Mais je dirais que c'est, pour moi, c'est pas ça. Le changement, il viendra surtout de l'éducation que vous recevez, de l'éducation que vous allez donner plus tard, des échanges que vous avez entre camarades, et d'essayer de mettre votre vie quelque part au service de notre planète, d'une façon ou d'une autre. Hein, ça peut être en devenant médecin, ça peut être en travaillant pour une communauté, ça peut en étant enseignant, en étant tous les métiers, mais toujours en prenant soin d'essayer de respecter votre environnement dans votre quotidien.
À l'époque actuelle, les jeunes s'informent le plus souvent à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller vis-à-vis de beaucoup d'informations fausses, mais vraisemblables, qui peuvent y être véhiculées ?
Oui, mais c'est déjà très bien de me poser la question, parce que ça veut dire que quelque part, vous en avez une conscience. Il faut faire très attention, effectivement. C'est votre moyen de communication. Moi, je me mets déjà dans la génération d'avant. Je l'utilise, hein, j'ai Twitter, Insta, enfin bon, je suis aussi sur les réseaux sociaux, hein. Mais c'est vrai que nous, on a peut-être plus de recul. On dit toujours à nos étudiants, attention, hein, Wikipédia, c'est bien, tout est sur Internet, mais parfois, il y a des grosses bêtises. En fait, faut pas aller contre ça. Je veux dire, c'est votre mode d'expression, c'est votre mode de communication. Mais par contre, il faut garder un esprit critique. C'est-à-dire que même si ça a l'air vrai, faut jamais l'accepter. Nous, en science, hein, particulièrement en science, on se pose sans arrêt la question. On remet sans arrêt en cause. Rien n'est acquis. C'est-à-dire que quelque chose qui va nous être rapporté comme nouvelle, eh bien, on va se dire, bah tiens, oui, mais alors, est-ce que c'est vrai ? Et on va mettre en œuvre. Alors, soit on va demander à des gens qui savent peut-être mieux que nous, soit on ira voir d'autres réseaux sociaux, soit, en tout cas, on parlera. Et en échangeant, je pense qu'on peut éviter des croyances ou des informations, des fake news, hein, qui seront dangereuses, en fait, quand elles sont disséminées. Je vais juste vous donner un exemple. Nous, on est très embêtés parce que, par exemple, à la fac de Dijon, il y a certains enseignants qui ont organisé des réunions, justement, scientifiques. Mais c'était sans le dire et sans l'avouer véritablement, mais en disant, bah voilà, moi je crois au fait qu'il faut pas se faire vacciner, etc., parce que il y a des méthodes médicales zen qui permettent de se soigner de façon efficace. Et effectivement, là, pour le coup, nous, la plupart d'entre nous, on va s'arc-bouter contre ça, parce que si c'est véhiculé par l'université, c'est très embêtant. Et là, vous voyez qu'on a un rôle à jouer. Alors, c'est pas à nous, hein, de dédicter ce que les gens doivent faire ou pas faire, mais il faut pas qu'ils utilisent un organe tel que l'université pour donner des éléments qui seront forcément écoutés par des gens et qui vont les induire en erreur et peut-être causer la perte de quelqu'un de leur famille. Vous voyez que ça peut être une implication directe. Il faut faire attention.
Avant de terminer cette interview, quels sont les conseils que vous pourriez donner à de jeunes lycéens ou lycéennes qui sont attirés par les sciences, sans forcément avoir une idée précise dans ce métier, dans ce domaine ?
Tout à fait. Bah, en fait, il faut... Soyez passionnés, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est venez, essayez. Ça vous plaît pas, c'est pas grave, vous ferez autre chose. Mais le secret, je dirais, du chercheur ou le secret des sciences, c'est de se poser des questions sans arrêt. C'est... de regarder une bouteille d'eau et de se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille d'eau ? C'est quoi sa composition ? D'où vient l'eau ? Quel est le devenir de l'eau ? Est-ce que j'en aurai tout le temps ? Vous voyez que je vais prendre la bouteille d'eau qui est dans ma main et je vais commencer à me poser des tas de questions. Alors, ça pourra aller très très loin, hein, dans ce questionnement, mais il faut être curieux. En fait, c'est la curiosité et la passion. Donc je dirais que c'est ça qu'il faut que vous ayez, vous les jeunes.
Nous vous remercions, Madame Bénin, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à cette fête de la science au sein du lycée Raoul Follereau.
Bah, merci. Moi, je tiens à vous féliciter, parce que c'est pas un exercice qui est facile, et bravo.
Et merci à tous nos éditeurs de nous avoir écoutés sur Bac FM.
Au revoir.